Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndali Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le virus d'Ebola revient encore une fois en République démocratique du Congo. Cette 16e épidémie de fièvre hémorragique virale d'Ebola a déjà fait 16 morts sur les 28 cas suspects recensés dans la zone de santé d'Ebola P dans la province du Kasaï. 5 échantillons se sont révélés positifs de la souche Zaïre et les autorités appellent la population au calme. Rencontre hier à Kinshasa entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU, et la première ministre Judith Suminwa. Judith Suminwa a voulu à cette rencontre s'assurer des efforts de l'ONU en vue d'appliquer effectivement la résolution 2773. L'invité de ce journal est Jean Bosco Lalo. Cet acteur de la société civile déplore les piétinements des différentes initiatives de paix alors que les conflits armés continuent de faire des victimes et de causer d'importants dégâts matériels. Il appelle les acteurs politiques à faire preuve de volonté et de responsabilité pour faire avancer les négociations et favoriser un retour durable de la paix. Encore une fois, bonjour à tous. Le virus Ebola fait son retour en République démocratique du Congo. Annonce faite hier jeudi par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Cette 16e épidémie de fièvre hémorragique virale d'Ebola a déjà fait 16 morts sur les 28 cas suspects recensés dans la zone de santé d'Ebola P dans la province du Kasaï. Parmi les 6 échantillons analysés à l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB, 5 se sont révélés positifs à la souche Zaïre, indiquent les autorités qui appellent la population au calme. Écoutons le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, dans cet extrait proposé par Polly Mousalia.
Le diagnostic sur les 6 échantillons que nous avons reçus, 5 étaient positifs à Ebola de souche Zaïre. C'est ainsi que cela nous permet d'adapter notre réponse à cette maladie. Cette réponse qui consiste d'abord à la surveillance de tous les cas contacts qui ont été directement ou indirectement en contact avec les malades ou les décès. Deuxièmement, à administrer le vaccin parce que heureusement pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin. Et pour les malades, la prise en charge immédiate de leurs symptômes, mais aussi nous avons en l'occurrence un traitement spécifique. Et nous demandons à la population, bien entendu, de rester calme parce que vous savez que nous avons une grosse expérience de la gestion d'Ebola. Nous sommes, comme je l'ai dit, à la 16e épidémie de cette maladie.
Alors que les autorités sanitaires confirment la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, que devons-nous retenir de cette pathologie? Comment l'attrape-t-on? Quels en sont les symptômes? Élément de réponse avec vous, Stanislas Diomi.
La maladie à virus Ebola est une maladie rare mais grave chez l'humain. Elle est souvent fatale. Cette maladie d'origine virale peut atteindre la population humaine lorsque des personnes ont un contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes ou d'autres liquides biologiques d'animaux infectés comme les chauves-souris frugivores, les chimpanzés, les gorilles, le singe, les antilopes forestières ou les porcs épics trouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. La période d'incubation ou le délai entre l'infection et l'apparition des symptômes varie de 2 à 21 jours. Les symptômes de la maladie à virus Ebola peuvent être soudains. Ils sont notamment les suivants. Fièvre, fatigue, malaise, douleurs musculaires, céphalées, maux de gorge. Ils sont suivis des vomissements, de diarrhées, des douleurs abdominales, d'une éruption cutanée et des symptômes d'insuffisance rénale et hépatique. Sachez qu'il existe un vaccin contre la maladie à virus Ebola. Cependant, pour prévenir cette maladie, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, éviter tout contact avec le malade, éviter les activités à risque élevé d'exposition dans les endroits touchés par la maladie et la vaccination.
Nous le disions en titre, hier à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a échangé avec Judith Suminwa, première ministre de la RDC. L'entretien entre les deux parties a été focalisé sur l'application effective de la résolution 2723 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le processus de paix de Washington et de Doha. La situation humanitaire alarmante observée dans l'est de la RDC y a été également abordée. Des détails avec Askin Dzigbatayoro.
Se référant à une condensée de la cellule de communication de la primature, la première ministre Judith Suminwa a voulu à cette rencontre s'assurer des efforts de l'ONU en vue d'appliquer effectivement la résolution 2773. Car le retour de la paix totale dans l'est du pays demeure une priorité pour le gouvernement Suminwa II. Sur ce point, Jean-Pierre Lacroix a rassuré la première ministre de l'implication de l'ONU pour l'application effective de la dite résolution qui n'a pas encore produit des résultats escomptés sur terrain. Le chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU a reconnu malheureusement la défaillance relative à l'application de la résolution 2773, car selon ses constats sur terrain, les violences ne font que s'accentuer. Comme solution, selon les diplomates onusiens, il faudrait que tous les partenaires redoublent des efforts pour mettre fin aux hostilités, ce qui passe par la mise en œuvre réelle d'un cessez-le-feu et de tous les engagements pris à travers les initiatives de paix de Washington et de Doha, affirme Jean-Pierre Lacroix. Par ailleurs, d'après la même source, Jean-Pierre Lacroix a également épinglé au cours de son entretien les difficultés financières qui risquent de limiter l'action de l'ONU relative aux initiatives de paix et soutien humanitaire.
Pendant ces temps, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a rendu public hier jeudi son rapport pour le mois de juillet. Le document fait état de 535 violations et atteintes aux droits humains recensées à travers le pays. Ces données sont régulièrement transmises aux autorités compétentes afin qu'elles prennent des mesures nécessaires, notamment en poursuivant en justice les auteurs présumés de ces actes. Richard Junior Kamunga a consulté ses rapports et nous en propose une synthèse.
Pour le mois de juillet 2025, le Bureau conjoint aux droits de l'homme a recensé 535 violations et atteintes aux droits humains, soit une hausse de 6% par rapport au mois de juin où il y avait 506 violations et atteintes. Au moins 87% des violations et atteintes ont été enregistrées dans les zones touchées par les conflits armés, les provinces du Nord Kivu, 288 cas, du Sud Kivu, 118 cas et de l'Ituri, 56 cas étant les plus affectés. La majorité de ces violations et atteintes de 72% sont imputables aux membres des groupes armés, notamment les M23, 234 cas, les éléments Wazalendo, 48 cas, les agents de l'État, principalement les militaires des FARDC, 70 cas, et les agents de la police nationale congolaise, 48 cas. Quant aux violations sexuelles, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté au moins 34 cas liés au conflit affectant 69 femmes. Cela représente une augmentation de 38% par rapport au mois précédent. En matière de lutte contre l'impunité, 151 poursuites judiciaires à l'encontre de 20 militaires FARDC, 3 agents de la police nationale congolaise et 6 civils ont donné lieu à des condamnations pour des infractions de violations et atteintes aux droits humains par les juridictions militaires.
Ce journal se poursuit dans le sud Kivu où la situation reste tendue dans la ville d'Uvira. Les Wazalendo, alliés fidèles des FARDC contre le rebelle du M23, continuent de s'opposer au retour du général Olivier Gassita dans cette zone. Une situation décriée par les autorités locales. Ronéline Tibonera pour les détails.
Ce jeudi matin, des barrières ont de nouveau été érigées vers Kilomoni, un axe routier menant à la frontière avec le Burundi. Conséquence, toutes les activités entre Uvira et le Burundi sont paralysées. Nos sources sur place indiquent que dans la soirée de mercredi, des accrochages entre les Wazalendo et les FARDC ont une fois de plus été rapportés. Le Wazalendo reproche aux autorités nationales la nomination d'un officier qu'il soupçonne d'entretenir des liens étroits avec les rebelles du M23. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, les maires d'Uvira regrettent l'attitude des Wazalendo que perturbent les activités activité depuis des jours. À travers ces documents, Kifara Kapenda, maire adjoint, rassure les protestataires que leur colère a été entendue et les exhorte à mettre fin à la manifestation. L'autorité urbaine appelle les organisateurs à faire preuve de responsabilité et de respect envers les institutions et les invite à participer à une réunion d'urgence prévue ce vendredi à Uvira. Pendant ces temps, trois civils dont deux conducteurs de moto tricycle blessés lors de ces manifestations ont succombé à leurs blessures, indiquent des sources hospitalières. Le général Olivier Gassita est désormais chargé des opérations et du renseignement à Uvira. Après la chute de Bukavu aux mains du M23 en février 2025, Gassita avait échappé à une tentative d'assassinat dans la plaine de la Ruzizi. Il avait alors fui et trouvé refuge temporaire au Burundi avant d'être rappelé à Kisangani puis à Kinshasa.
Sécurité encore, province du Tanganyika, réouverture ce mercredi de la frontière entre la RDC et la Zambie du côté du village Moussosa en territoire de Moba. La frontière entre les deux États a été fermée depuis le 27 août dernier suite à un incident survenu au niveau du village Moussosa en RDC et Kaputa en Zambie. Deux militaires des FRDC sont arrêtés en Zambie. Paul Munanga pour les détails.
L'administrateur du territoire de Moba, accompagné par les responsables des services de sécurité, s'est rendu au village Moussosa pour s'enquérir de la situation. Un des habitants du village revient sur l'incident qui a opposé les Congolais aux Zambiens. Ils étaient à trois, dont deux éléments des FARDC et un de la DEMIAP. Ce dernier a alerté au sujet de l'arrestation des deux militaires des FARDC du côté zambien. Le 27 de chaque mois, les Zambiens organisent la foire. Une occasion pour les Congolais de traverser la frontière pour faire des achats en Zambie. Alors les militaires des FARDC ont renforcé la surveillance pour arrêter tout Congolais qui emprunte des sentiers pour passer frauduleusement avec leurs marchandises afin d'échapper à la douane. Un Zambien a repéré des militaires congolais en train de pourchasser des civils congolais qui sont entrés en Zambie par des sentiers. Il a alors alerté les militaires zambiens qui ont arrêté les deux militaires congolais. Pour les Zambiens, les militaires congolais sont entrés illégalement sur le sol zambien. Après l'arrestation des militaires congolais, les FARDC ont pris la décision de fermer la frontière congolaise exigeant la libération de leurs collègues détenus en Zambie. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale affirme l'engagement du gouvernement de payer tous les enseignants, même ceux qui sont dans les zones sous occupation. Raissa Maloudi Nanga a ainsi réagi ce jeudi lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe. Elle a assuré recourir au paiement mobile pour permettre à tous les professionnels de la CRE de recevoir leur dû à temps et sans de moindres difficultés. Suivez les propos de Raissa Malo.
Sachez que le ministère veille toujours à ce que les salaires et les primes des enseignants soient payés, qu'ils soient payés à temps. Nous savons que nous avons des difficultés avec quelques agents payeurs sur lesquels nous travaillons et lorsque nous découvrons une activité, nous agissons. Mais côté gouvernement, le gouvernement ne fait pas de distinction, il respecte strictement ce qui a été défini, donc il paye les salaires et il paye les primes sans déroger à cette règle. Cela dit, il y a quand même un élément important. Nous allons lancer à partir de la semaine prochaine une mission de nettoyage du fichier de paye, qui va donc permettre d'avoir une meilleure rationalisation des ressources au sein du ministère, notamment d'identifier les fictifs, autant pour ce qui est d'enseignants et des écoles, de manière à récupérer des ressources pour assurer le paiement, notamment des enseignants qui sont actuellement non payés. Donc je veux ici réaffirmer et confirmer l'engagement du gouvernement de payer en l'occurrence tous les enseignants, de toujours payer les primes. S'il y a une difficulté lorsqu'elle nous est rapportée, nous apportons les solutions lorsque c'est nécessaire. Et en plus, on va faire une meilleure gestion de nos ressources de manière à récupérer de l'argent et pouvoir payer nos enseignants qui sont actuellement non payés et identifier ceux qui sont nouvelles unités.
Pour sa part, Patrick Muyaya Katembwe indique que la prise en charge de tous les enseignants à travers le pays prouve la volonté du gouvernement de régler les problèmes des agents et fonctionnaires de l'État des zones sous occupation avec parcimonie et célérité. Rendons-nous au Nord Kivu où l'on assiste à une prolifération des maisons dédiées à la prostitution dans plusieurs zones de santé de la province. Une situation qui préoccupe les parlements d'enfants de Beni et la commission diocésaine de Butembo. Ils en ont parlé ce jeudi dans la ville de Beni avec le gouverneur du Nord Kivu. Car selon ces structures, ces maisons dites de tolérance constituent non seulement un lieu de destruction de la jeunesse, mais aussi de cachette pour les bandits armés qui insécurisent la ville. Ils demandent l'implication de l'autorité provinciale pour mettre fin à cette situation. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Selon les résultats des enquêtes menées par les parlements d'enfants de Beni, les organisations féminines, le bureau des gens, familles et enfants et la société civile de la région, 615 maisons de tolérance ont été répertoriées et identifiées dans 6 zones de santé sur les 11 que compte la province du Nord Kivu en juin dernier, ce qui constitue un danger pour la jeunesse et favorise la montée de l'insécurité. Eloge Bakwanamaha, président du parlement d'enfants de la ville de Beni.
Ces maisons de tolérance ne sont non seulement là pour faire la prostitution, elles sont en train de contribuer à l'insécurité totale de notre ville. Parce que ça contribue au banditisme urbain. Ce sont des lieux où les gens qui tracassent les gens le soir se rencontrent pour planifier de leur coopération. Alors nous avons trouvé que c'est très important que l'autorité provinciale agisse parce que si seulement on retardait encore, ça va se transformer en d'autres choses. Nous, à notre niveau, comme nous le faisons, c'est de sensibiliser la communauté à travers des médias, à travers des réseaux sociaux, à travers des émissions diffusées pour qu'on puisse en fait finir avec les maisons de tolérance dans la ville de Beni et dans les territoires de Beni et dans la ville de Butembo.
L'autorité provinciale a promis instruire les services compétents de se pencher sur cette question dans les plus brefs délais. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Si son mandat s'est officiellement achevé à minuit dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre, le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo n'entend toutefois pas quitter le pouvoir avant l'élection de son successeur qui n'interviendra que dans un peu plus de 2 mois. En face, l'opposition crie à l'illégitimité et réclame une transition démocratique dans un pays qui a connu une dizaine de coups d'État en 2 décennies seulement.
L'invité.
Plusieurs processus de paix ont été initiés pour restaurer la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Invité des Radio Capi, les porte-parole de la société civile, Force Vive déplore les piétinements de ces initiatives alors que les conflits armés continuent de faire des victimes et de causer d'importants dégâts matériels. Il appelle les acteurs politiques à faire preuve de volonté et de responsabilité pour faire avancer les négociations et favoriser un retour durable de la paix. Jean Bosco Lalor s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Jean Bosco Lalo.
Bonjour monsieur Blaise.
Quelle lecture faites-vous des différents processus de paix lancés à travers les pays? Là, je vais parler de Washington, Doha et puis celui des confessions religieuses.
Ces processus deviennent de plus en plus obsolètes et que la population est dans les passes. Donc les victimes sont dans les passes. Nous sommes tous au courant que depuis le 17 août, il y a eu le lancement du pourparlers de Doha. Et avant ces discussions, le facilitateur a essayé de faire des propositions pour faire avancer les débats. Il a envoyé des documents aussi bien auprès du gouvernement et de la rébellion. Mais aussitôt documents envoyés, aucune des parties n'a été d'accord avec les propositions faites par la médiation. Mais ils sont allés rapidement à Doha. Mais à ce niveau-là, déjà, il se pose des problèmes. Lorsque déjà le processus de Doha, qui aujourd'hui fusionne Washington, n'est pas pris au grand sérieux, quand même on sent qu'il y a une certaine légèreté dans la considération qui devait être réservée à la médiation ou à la facilitation par rapport aux propositions qui étaient formulées. Lorsque Doha subit des pareilles situations, et qu'est-ce qu'on peut encore entendre des processus locaux où il n'y aurait aucune pression? Washington et Doha pouvaient faire peur. On se raconte que les partis au conflit de la RDC n'ont même pas peur des États-Unis et moins encore de Doha. Alors, qu'en sera-t-il alors les confessions religieuses qui ont publié les feux de route?
Le chef de l'État a dernièrement refusé tout processus où seraient impliquées les personnes inféodées. Comment jugez-vous cette position du président de la République?
Le chef de l'État, en fait, dans sa communication par rapport à tous les processus, il était très clair. Et moi, je l'ai compris. Mais je suis surpris aussi de constater, malheureusement, que beaucoup de Congolais ne l'ont pas compris. Le chef de l'État voudrait être le sujet de tout processus qui va se déclencher en RDC, de tout dialogue. Donc, ça veut dire qu'à part lui, il n'y a aucun autre sujet qui peut se prétendre ou se prévaloir la qualité de convoqué et dialogue surtout oui. par rapport aux crises en RDC. Négativement, c'est que le chef de l'État est devenu maintenant le seul acteur majeur et que s'il n'a pas la bonne volonté, ça c'est une hypothèse, de conduire le processus de paix, ce qui fait qu'il n'y en aura pas. Et tout ce qu'on fait, ce sont des pertes de temps inutiles. Mais au même moment, pris positivement, si l'engagement réel de discussion ou de voir comment mettre fin à tout ce qu'on a comme crise, connaissant évidemment les revendications des uns et des autres, il est possible une voie de sortie soit espérée.
Que préconisent les bureaux de la coordination nationale de la société civile Force Vive pour arriver exactement à un dialogue et mettre fin à la crise qui s'écoule à partie orientale du pays?
Les propositions sont nombreuses. Et ce qui nous manque aujourd'hui au Congo, c'est pratiquement la logique simple. Il faut qu'il y ait deux prémices pour arriver à une conclusion. Si aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont et pays amis au Rwanda. Et que le Rwanda, c'était pays avec lequel nous sommes en conflit. Et comment est-ce que nous pouvons au même moment vouloir être amis des États-Unis alors que les États-Unis est déjà amis au Rwanda? Donc en fait, nous sommes dans une complexité où il faut seulement comprendre et se comporter en conséquence. Pour nous, et ça, je le dis sincèrement, ce conflit de l'Est a fait des victimes. Des victimes physiques, déjà dont les membres sont amputés, déjà qui sont devenus aujourd'hui atrophiés, déjà physiquement touchés. Mais il y a aussi des victimes matérielles. Ceux qui ont perdu tous leurs biens, ils n'ont plus rien de perdre.
Moi, je dirais, il y a même des victimes morales.
Évidemment.
Certains qui sont aujourd'hui malades.
J'arrive, justement. Il y a victimes, il y a des victimes psychologiques, parce que comme vous dites là, ceux qui sont devenus malades, ceux qui ont subi des pressions. Mais il y a aussi des victimes matérielles, ceux qui ont perdu des biens, de ces catégories de victimes. Aujourd'hui, qui subissent vraiment ces affres de guerre. Ce sont les habitants de la région où s'effectuent ces combats. Nous avons l'Ituri, nous avons le Nord-Kivu, nous avons le Sud-Kivu, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous pensons concrètement aujourd'hui?
C'est ça.
Les partis au conflit sont connus. Lorsque ces personnes-là ont souhaité se rencontrer et concrètement, ils n'y arrivent pas, nous sommes loin des solutions.
Pour certains, l'essentiel est que la RDC se dote d'une armée forte pour être au-dessus de tout processus.
Moi, je pense que dans les démarches qu'on retiendrait, il fallait tenir compte des victimes. Il faut mettre les victimes au centre des préoccupations. Se doter d'une armée, il va de soi qu'on ait une armée. Ça, c'est même pas à dire.
Une armée capable, quoi, de faire face à toute rébellion, toute agression.
Donc aujourd'hui, avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, ça, ce sont des progressistes reconnus à l'État. Et on ne peut plus demander ça. Ça, c'est pas demander. La demande conciliante, c'est que les partis mettent de l'eau dans leur vin. Parce qu'à la phase actuelle, il n'y a aucune volonté manifeste de vouloir négocier réellement et sincèrement.
Monsieur Jean Bosco Lalo, vous disons merci.
C'est plutôt à moi de vous remercier.
C'est aussi la fin de notre grande édition du journal Parler du Matin. Merci de nous avoir suivis.